BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine et on file sur les marchés. Comme à chaque fois, c'est notre promesse de vous permettre de vivre aussi au rythme de cette séance depuis la Bourse de Paris et le siège d'Euronext à la Défense, Antoine Larigauderie. Pour le moment, effectivement, bon, on attend tranquillement les grands rendez-vous de Banque Centrale.
Oui, c'est assez amusant ce qui se passe sur les marchés, parce que c'est vrai que rien de grave, hein, moins 0,5% pour le CAC 40, 7042 points. Il n'y a pas du tout le feu à la maison, moins 0,55% pour le Eurostock 50, moins 0,6% pour le DAX à Francfort. Mais si on regarde ce qui se passe du côté de Wall Street, qu'on sonde un petit peu l'état d'esprit des investisseurs et qu'on regarde certains indicateurs, alors la volatilité qui remonte doucement vers 20 points si on regarde l'indice VIX hein, américain, le pétrole qui d'un coup corrige assez brusquement, hein, on est du côté des 83$ maintenant, 83,30$ sur le baril de Brent de Mer du Nord. Eh ben, on a des investisseurs, si on fait la moyenne de tout, qui sont en train de se dire oui, les indicateurs d'activité économique restent dynamiques. La hausse des prix a tendance à rester quand même très tenace. De là à penser que la Fed demain soir et que la BCE jeudi se montreront plus fermes qu'attendues dans leur rendu de décision de politique monétaire et sur les hausses de taux, ben, il n'y a qu'un pas et on commence à sentir doucement la physionomie de marché changer un petit peu. Donc du coup, pour l'instant, ça reste de l'ordre du phénomène marginal. Enfin, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre parce que si les marchés sont pris à contre-pied, dans un sens comme dans l'autre, la réaction risque d'être relativement violente au vu des positions qui sont prises aussi sur les marchés d'options et de dérivés, particulièrement du côté du marché américain. Alors, sur les valeurs, ça se traduit par des prises de profit autour de valeurs cycliques. On a ArcelorMittal qui recule d'1,9% à 28,37. On a Saint-Gobain, moins 2% à 52,28. On a Total Energy qui recule d'1,5% à 57,04€, donc atteint par cette forte correction des prix du brut. Et puis, on préfère revenir sur des valeurs sûres. Alors, Pernod Ricard, plus 1,56% à 189€. EssilorLuxottica, plus 0,7 à 167,60€. Ou Danone, plus 0,22 à 50,21€. Il y a un secteur qui échappe un petit peu à ce sentiment négatif, c'est le secteur bancaire, du fait des très bons résultats d'UBS ou d'UniCredit qui ont été publiés ce matin. Société Générale gagne 1,6% dans le sillage. On est à 27,04€. Crédit Agricole, plus 0,29, 10,97. À noter toujours la plus forte hausse du SBF 120, ça n'a pas bougé. SEB, plus 7,6% à 95,55, et la plus forte baisse. La Française des Jeux, moins 5,32 à 38,59. Le CAC, donc, moins 0,56 à 7042, et l'euro, 1,0830, Cédric.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Marc Touati et Mathieu Bailly. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric. Bonjour,
merci d'être au rendez-vous. Marc pour Asselefi, Mathieu pour Octo AM. Est-ce que les marchés voient, enfin les marchés financiers j'entends, voient trop la vie en rose selon vous? Je vous donne pour illustration le SPI. Comme ça, vous ne me direz pas, mais le CAC 40 ne représente que patati patata, qui est en passe de réaliser, on verra ce soir, hein, son deuxième meilleur mois de janvier depuis le début du siècle. Ça veut dire que c'est bon, on a chaussé, Mathieu, les lunettes roses et qu'on y va ? Ou pas ?
Alors, il y a deux parties un peu l'une contre l'autre. La première, c'est que chaque mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, puisque ça incite les marchés à penser que les banques centrales vont rétro-pédaler à partir d'assez vite, quasiment à mi-année, voire en octobre, pour des premières baisses de taux de la Fed. La BCE, c'est un peu ce qu'anticipent aussi les marchés, avec un plafond des taux à partir de juin-juillet, et puis presque une baisse, un début de baisse à partir de fin 2023. Ça, pour le coup, c'est peut-être un peu, ça peut être un peu exagéré parce que c'est vrai que c'est ce sujet d'inflation pour l'instant, il n'est pas spécialement maîtrisé.
On va revenir sur les banques centrales.
Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est ça qui fait en fait aujourd'hui un peu monter les marchés. Quelques sociétés aussi qui rattrapent des retards. On voit que celles qui montent beaucoup aussi, c'est celles qui avaient dévissé parfois l'année dernière, avec des une incertitude un peu générale quand même qui reste.
Donc c'est pas complètement des lunettes roses. Il y a des.
C'est plutôt des lunettes noires qui font monter.
Qui font voir en rose.
Voilà.
Ah, c'est une bonne image.
C'est une question de couleur finalement.
Ouais, non, moi je dis effectivement. Non, mais les marchés avaient quand même bien baissé effectivement en 2022. Mais
d'accord,
mais enfin, il y a un effet de rattrapage là.
Voyez le SPI, voyez le CAC.
Oui, enfin, alors le CAC plus que le Standard & 500, bien sûr, mais je veux dire. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de dire, quand on fait plus 9% depuis le début de l'année sur le CAC 40, il faudrait peut-être prendre ses bénéfices parce qu'on n'est pas sûr de faire ça sur l'ensemble de l'année. Alors, peut-être pas beaucoup de placements qui vont faire ça cette année. Donc voilà, j'ai envie de dire, peut-être l'année est déjà faite, entre guillemets, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Moi, ce qui m'a quand même impressionné la semaine dernière, c'est quand on a l'annonce justement de l'envoi de chars de lourds, entre guillemets, en Ukraine, donc qui pourrait générer, je dirais, une surtension, on va dire, peut-être même plus grave dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, et qui pourrait donc dégénérer. Là, c'était une journée formidable pour les marchés boursiers. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de dire que, bien sûr, qu'il y a effectivement ces craintes sur les taux d'intérêt, donc là ça se calme un petit peu, on se dit bon, quoique l'inflation est toujours élevée, on va en reparler, mais néanmoins n'oublions pas que l'essentiel des marchés boursiers c'est quand même les dividendes, c'est quand même les profits à venir. Or si effectivement il y a une récession qui est là aussi, il y a une tension géopolitique qui va augmenter, bah, à ce moment-là il y aura beaucoup moins de croissance, donc beaucoup moins de dividendes, et donc les marchés de facto doivent reculer. Donc je pense qu'il y a, c'est, effectivement on a envie d'y croire, les marchés ont envie d'y croire en se disant finalement le plus dur est passé au niveau des taux d'intérêt, mais ils oublient simplement que le fondamental des marchés boursiers, c'est bien sûr les taux d'intérêt, mais avant tout, c'est l'activité économique. Bon. Alors si on a une récession qui est là, et mécaniquement, je dirais, les marchés doivent prendre leurs bénéfices. Et donc, je pense qu'on aura une année de forte volatilité. On va avoir des phases comme ça de très forte hausse, après des phases de très forte baisse, et ainsi de suite.
Donc, vous nous dites,
ça sera les montagnes russes, je pense, sur les marchés boursiers.
Vous nous dites récession, inflation, etc. Alors certes, il y a ce matin le chiffre d'inflation qui témoigne qu'en France, le pic est peut-être pas complètement passé, encore que. Mais enfin, on a le FMI qui nous dit que a priori, les choses devraient aller mieux. Et puis, on voit quand même que la récession tant et tant annoncée. Bon an, mal an, elle n'est pas quand même vraiment là, Mathieu aussi.
Ben justement, on voit que la récession n'arrive pas spécialement et que l'inflation reste un petit peu au contraire présente, ce qui pourrait contrecarrer ou contredire un petit peu le scénario actuel des marchés, qui est de dire que les banques centrales vont rebaisser les taux très vite. D'autant plus en Europe, où la BCE n'a pas spécialement de mandat de croissance ou de lutte contre le chômage, elle a spécifiquement un mandat d'inflation, et on voit bien dans les pays européens que pour l'instant l'inflation ne baisse pas, et que du coup cette anticipation de taux qui se stabilise à partir du mois de juin, voire qui rebaisse un peu, est peut-être un peu exagérée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des dividendes qui parfois rapportent 3-4, alors que les taux d'intérêt du marché obligataire en général sont plutôt entre 3 et 4 aussi, on se dit pourquoi peut-être les actions sont si chères, et surtout si on se dit que la BCE peut continuer de monter un petit peu les taux, ça peut être étonnant que le Bund à 10 ans par exemple soit qu'à 2% ou 2,30, quand la BCE elle dit que son taux directeur à une journée ou à 15 jours sera à 3 ou à 3,50. Si jamais elle l'augmente d'encore de 25 BP, on peut imaginer des investisseurs qui se disent pourquoi j'irais me placer sur du Bund à 10 ans avec une incertitude forte quand je peux avoir des placements court terme à 3-4 de taux.
Alors, qu'est-ce que vous font dire ces chiffres de ce matin, par exemple, enfin de ce matin ou d'hier,
sur la France,
le FMI,
oui, bon.
Sur la France.
Non, le FMI, je veux pas être méchant, mais enfin bon, c'est les prévisions globalement qui sont jamais réalisées, quoi. Donc on a l'habitude. Il y a quelques mois, il dépeignait la vie en noir. Maintenant, c'est la vie en rose. Bon, donc voilà. Il devient aussi volatile que les marchés. Donc ça ne sert pas à grand chose.
Mais regardez les chiffres français.
Prenons les chiffres de ce matin sur le PIB français. C'est vrai qu'on a eu une sorte de magie, si vous voulez, 0,1% de croissance. Bon, c'est pas génial quand même, c'est très faible, mais c'est vrai que pour ma part, je m'attendais à une baisse du PIB. Pourquoi ? Parce que tous les indicateurs avancés de la croissance, que ce soit la consommation des ménages qui s'est effondrée, la production industrielle qui s'est effondrée, annonçaient une baisse du PIB. Ce matin, on a une petite hausse de 0,1%. Bon, c'est pas l'euphorie, mais surtout, ce qu'on ne regarde pas, c'est le détail des chiffres. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on a de la croissance en France ? C'est grâce, tenez-vous bien, à la chute des importations. Les importations ont chuté de 1,9%. Ce qui veut dire que, sauf cet élément, si on enlève cet élément un petit peu exceptionnel, on a une baisse du PIB de l'ordre de 0,4 à 0,5%. Voilà ce qui s'est passé en fait au quatrième trimestre 2022 au niveau interne, au niveau de la France, si vous voulez. Donc c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un PIB intérieur qui est en train de baisser, mais comme effectivement les importations ont plus chuté, je rappelle que les importations contribuent négativement à la croissance, donc quand ça le baisse, ça fait du positif. Moins et moins, ça fait plus. Donc ce qui fait qu'on a cet effet un petit peu d'optique, mais la réalité intérieure domestique de la France, c'est une baisse du PIB de l'ordre de 0,4%. Donc c'est pas l'euphorie. Hein. Et pareil sur l'inflation, on remonte un petit peu à 6%. Et là, c'est pareil aussi sur les perspectives d'inflation, c'est que les marchés s'étaient dit, bah voyez, ça y est, c'est globalement les prix des matières premières baissent, etc. Tout va bien, sauf que depuis quelques jours, ça arrête de baisser les matières premières. Ça remonte un tout petit peu. Si on prend l'indice CRB de toutes les matières premières dans le monde, ça remonte un tout petit peu. Donc c'est-à-dire que l'essentiel de l'effet de la baisse inflationniste n'est plus là. Donc il faut quand même être très prudent. Moi, je pense qu'on reste dans cette stagflation. Ça veut dire une économie qui est exsangue, qui souffre, hein, qui est quasiment en récession. Alors bon, après, on ne va pas chipoter sur les chiffres.
-0,1, -0,1.
Mais c'est quand même une stagnation économique et une inflation qui reste élevée. Donc il va malheureusement imposer aux banques centrales de continuer à monter les taux d'intérêt. Et là, évidemment, les marchés, je pense qu'ils ont été un petit peu optimistes sur ça. Les banques centrales vont continuer à monter leurs taux d'intérêt. Et surtout, je pense que la clé de cette année, c'est les marchés obligataires. C'est-à-dire que c'est les taux d'intérêt des obligations d'État. Pour l'instant, ça remonte, hein, comme on l'avait annoncé, hein, un peu seul contre tous il y a un an. C'est ce qui se passe. Et ça se calme certaines semaines, mais ça reste quand même très élevé. Et c'est là où ce qui se passe sur les réformes des retraites par rapport aujourd'hui en France, ça peut être dangereux, parce que si jamais il y a une reculade ou autre, si ça dérape, ben là, ça va générer encore une fois une dette publique qui va encore augmenter. Donc on va dire la France n'est pas capable finalement de moderniser son économie. Et donc ce qui veut dire qu'on va avoir encore plus de dettes, donc les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, sans parler d'un risque sur l'ensemble de la zone euro. Donc je pense qu'encore une fois, c'est bien d'être... Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Sinon, on ne serait pas là. Mais il faut aussi être réaliste, sinon on nous en voudrait.
Du coup, ces banques centrales, effectivement, depuis qu'on les suit, depuis qu'on en parle, depuis qu'on les voit augmenter leur taux d'intérêt, on a parlé de taux pivot, de taux terminal, enfin bref, on ne va pas faire de litanie des taux. Et on a l'impression aujourd'hui que maintenant, on tourne autour de la neutralité des taux réels. Est-ce que vous partagez ça? De quoi on parle? Est-ce que ça veut dire qu'on est quand même déjà en train de se dire... Est-ce que le travail est achevé ou pas, ou on est un peu à côté de la plaque? Enfin, voilà.
Bah déjà, pour la BCE, il faut savoir de quel taux réel on parle. Est-ce qu'on parle de celui de l'Allemagne, de celui de l'Espagne, de celui de la Grèce? La BCE travaille pour tous. Si elle avait dû faire la neutralité des taux réels allemands, elle aurait monté ses taux à 4 ou 5 depuis déjà 10 ans. Enfin, j'exagère un peu, mais... Donc, est-ce que la BCE raisonne en taux européen moyen? Jusqu'à présent, la BCE a travaillé pour les pires, c'est-à-dire pour les pays qui étaient dans la difficulté, pour maintenir la stabilité de la zone euro et pour éviter que certains pays puissent être tentés de sortir ou qu'il y ait essayer de préserver un petit peu le social aussi par des transferts un peu indirects d'argent entre l'Allemagne et les pays périphériques. Donc elle a plutôt travaillé pour l'Italie et l'Espagne. Aujourd'hui, certes, l'inflation est plus élevée en Italie et Espagne, mais ces pays-là sont quand même encore avec un chômage élevé, une croissance faible et vont sortir de cette crise-là un petit peu, enfin même un peu pire que la France. Dans ce même cas, stagflation, c'est-à-dire avec un besoin finalement de soutien, parce que autant on peut l'imaginer aux États-Unis, parce que c'est une inflation qui est endogène, qui vient de l'investissement, de la croissance. En Europe, c'est un peu différent.
Donc le job est pas fait et
pour l'instant, et on voit bien que l'inflation actuelle, même si les matières premières ont rebaissé déjà depuis quasiment 4 mois, hein, le pétrole, il est revenu à 70 depuis un moment, on voit bien que le prix à la pompe, il est resté élevé et que beaucoup d'entreprises en profitent pour monter maintenant leur prix. Et que les négociations salariales, elles sont maintenant. Donc ce second tour qui ne serait pas arrivé si ça avait été un petit pic très rapide de matières premières qui se résorbe quelques semaines après, là on voit bien qu'il a été trop important et trop long. Et que ça fait vraiment un deuxième, voire troisième tour d'inflation qui fait que ça pourrait durer.
Marc ?
Oui, complètement. C'est-à-dire que le
job n'est pas encore terminé.
Encore une fois, je veux dire, il faut être honnête. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire que comment on sort d'une phase de forte inflation, comme ce qu'on a connu, on connaît encore aujourd'hui, c'est au travers d'une récession. Donc c'est horrible à dire, mais plus la récession est faible, plus on veut éviter cette récession, plus l'inflation va durer longtemps. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est que on veut plus se faire mal, si vous voulez. Donc on dit on va quand même continuer à aider les pays en difficulté, etc. On va donner le quoi qu'il en coûte, ça continue et autres. Sauf qu'à la fin, ça maintient l'inflation sur un niveau élevé. Et bien sûr, on a les effets de second tour et même de troisième tour. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont limité la hausse de leurs prix, elles le font à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que l'inflation, malheureusement, reste élevée. Quant aux taux réels, c'est vrai qu'ils sont toujours très négatifs, parce que, faut quand même être honnête, l'objectif d'inflation de la Banque Centrale Européenne, c'est quoi? Alors, évidemment, en moyenne, c'est 2%. On est encore, je vous rappelle, à plus de 9% d'inflation dans la zone euro. On va remonter peut-être à 10%, là, au premier trimestre. Donc, on est très, très loin de l'objectif. Donc, c'est vrai que les taux réels sont toujours négatifs, d'ailleurs, ce qui permet de limiter la casse. Ce qui veut dire que les banques centrales n'ont pas fait, surtout la BCE, n'a pas fait son boulot. Déjà, en amont, elle n'a pas voulu voir l'inflation qui était déjà là et donc elle n'a pas réagi. Je rappelle qu'elle a réagi seulement au mois de juillet 2022, alors que l'inflation était déjà à 6-7%, beaucoup trop tard. Et maintenant, effectivement, oui, elle...
Christine Lagarde nous a même dit, l'inflation, je ne vois pas d'où elle vient.
Voilà, elle nous a dit, voilà, elle vient de nulle part. Elle vient de nulle part. C'est encore plus fort. Et donc aujourd'hui, ce qui fait que elle continue de tarder pour faire, disons-le, hein, pour faire plaisir au gouvernement, pour faire plaisir au marché, etc. Mais c'est pas son boulot. Son boulot, encore une fois, c'est limiter l'inflation. Alors, bien sûr, l'inflation dépend également beaucoup de l'énergie, des matières premières. Maintenant que la Chine est en train de redémarrer, donc la demande chinoise va augmenter, donc les matières premières vont réaugmenter. Donc, on va maintenir une inflation qui va rester élevée. Et c'est vrai que c'est très dur à conceptualiser pour notre génération, parce qu'on sait pas ce que c'est de l'inflation durable. Nous, l'inflation, pendant 20 ans, c'était 1% en moyenne annuelle. Voilà. Donc là, ben non, le simple fait de dire, ah ben tiens, elle peut rester à 4-5% pendant 2-3 ans, on n'arrive pas à l'admettre. Pourtant, c'est une réalité actuelle et c'est dommage que nos banques centrales ne fassent pas le boulot pour justement nous sortir de cette inflation forte.
Vous avez évoqué la volonté, par exemple, de la Banque Centrale Européenne de laisser trop d'idées de sortie à trop de membres en difficulté. Remarquez, le FMI y voit un seul pays dans le G20 à connaître une récession cette année, c'est la Grande-Bretagne. Donc ça donne peut-être aussi moins envie de sortir.
C'est vrai.
Et eux, ils ont peut-être aussi plus envie de rentrer, parce que Alex Taylor nous disait ce matin, il y a une seule circonscription sur les 650 qui font tout le Royaume-Uni, une seule circonscription qui regrette pas le Brexit.
Ah ouais, le Brexit est une erreur stratégique, mais attention, hein, le Brexit, le Royaume-Uni n'était pas dans l'euro, donc il était que dans l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que pour nous, si jamais il y avait un pays qui sortait de la zone euro, alors là, ça serait beaucoup plus catastrophique, puisque là, il faudrait changer de monnaie, etc. Mais attention,
ça donne pas très envie.
Non, mais ne sous-estimons pas quand même les Anglais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on le fait trop souvent, et ils ont quand même une force de rattrapage qui pourrait être là. Et donc aujourd'hui, c'est qu'ils vont mal, mais quand même, faut être prudent. Et je pense que nous, justement, ça, par contre, c'est vrai. Si on n'avait pas eu la BCE, si on n'avait pas eu effectivement cette planche à billets exceptionnelle, on n'en serait pas là aujourd'hui, on serait peut-être bien dans une situation bien plus grave qu'au Royaume-Uni.
Terminons un petit peu par les marchés. Alors, on a déjà parlé des marchés actions en début pour savoir s'ils avaient leur lunette rose. Et disons aussi un mot du marché obligataire. Il a quand même été assez inédit en 2022. Comment vous le voyez en 2023? Parce que c'est un peu votre précaré, on va dire, le
marché obligataire. De 2023, c'est que contrairement au début 2022, là, on a un gros coussin de portage. C'est-à-dire que quels que soient les actifs obligataires sur lesquels vous êtes, ça permet d'absorber un petit peu la volatilité. Si vous êtes sur des obligations de bonne qualité, pas trop longues, c'est-à-dire 3-4 ans, vous pouvez déjà supporter, avec un portage qui doit être autour de 4%, ça permet déjà de supporter 100 points de base d'écartement. C'est-à-dire que même si les taux passent de 4 à 5, bon an mal an, vous perdrez pas trop d'argent. Sur la partie des sociétés un peu plus risquées à yield, là c'est même plus important, même jusqu'à 200 points de base d'écartement, bon an mal an, vous perdrez pas d'argent à horizon un an. Parce qu'il y a ce coussin, en fait. On retrouve, en fait, le fonctionnement du marché obligataire d'il y a 30 ans.
Et on retrouve une situation presque plus normale, non, surtout?
C'est un peu plus, c'est vrai que les taux négatifs, moi, j'avais, quand, mes parents me demandaient pourquoi c'était, parce que moi, j'étais professionnel, j'avais du mal à leur expliquer ce que c'était. Alors, on essayait de trouver des arguments comme le coffre-fort ou des choses comme ça. On s'en était accommodé, mais c'est vrai qu'économiquement, c'était un peu particulier. On en est sorti. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune obligation dans le monde qui est à taux négatif. Peut-être dans les livres d'histoire, on dira que c'était une aberration de cette décennie. Mais aujourd'hui, oui, on est revenu à peu près sur les taux de la fin des années 2000.
Et ça veut dire que l'horizon, entre guillemets, est dégagé, où il y a quand même quelques nuages qui viennent par-ci, par-là, peut-être, pour vous gâcher le joli panorama.
Ce qui n'est pas forcément durable à très long terme, c'est une pente négative des taux, c'est-à-dire que les taux courts rapportent du 3% quand les taux longs sont plutôt à 2. Ça c'est plutôt annonciateur d'une récession. Donc soit la récession arrive et ça se remet normalement. Quand ça dure, c'est qu'en général, il y a cette incertitude-là. Je pense que ça va être un peu comme le marché actions, ça va être une année volatile. Et donc, c'est pour ça qu'en général, nous, on est plutôt plus confiants sur des maturités courtes et plus confiants sur les sociétés. Parce que les sociétés, on a un avantage, c'est qu'elles sont à peu près dans la même incertitude que les investisseurs. Et du coup, ils sont plutôt très prudents à réduire la voilure, à essayer de se concentrer sur leur métier de base, à avoir des politiques financières prudentes. Et donc, du coup, ça assure les remboursements de ces obligations-là à horizon 3-4 ans de manière un peu plus importante.
Donc ça veut dire que ce marché obligataire, il est devenu plus calme que le marché actions dont on devisait en début de propos.
Aujourd'hui, les taux d'intérêt rapportent plutôt plus que les dividendes. Pour une sécurité, quand on est créancier, on est quand même prioritaire par rapport aux actions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit plutôt beaucoup plus de flux aujourd'hui sur les marchés obligataires que actions. Après, calme. On verra en fin d'année.
Ouais, moi, je pense regard sur ce marché obligataire.
Ben oui, ben, je vais...
Vous nous avez parlé des taux soins.
Non, mais moi, je me souviens, il y a un an, quand je dis oui, les taux d'intérêt à long terme des obligations d'État vont monter, on me dit, mais non, ça n'arrivera jamais. Je rappelle très, très bien une réunion à Bercy, comme ça, avec Bruno Le Maire, on peut en parler. Il y avait d'autres économistes. J'ai dit, faites attention, parce que la dette publique, si vous continuez d'augmenter, les taux d'intérêt vont finir par augmenter. Et tous les autres économistes qui étaient là, bon, beaucoup d'économistes de salon, certes, mais enfin, ils m'ont dit, non, non, mais non, pas du tout, la dette publique, c'est pas grave, les taux d'intérêt remonteront jamais, la BCE sera là. Vous voyez, on avait cet aveuglement collectif. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on revient vers un monde plus normal. Mais c'est pas terminé. C'est-à-dire que même avec une inflation, je dirais, à 6% ou à 9% dans la zone euro, on aurait des taux d'intérêt à long terme beaucoup plus élevés. Je rappelle que les taux d'intérêt à long terme, c'est effectivement les taux courts. Donc là, déjà, bientôt, les taux courts vont être supérieurs aux taux longs. Et après, on a des primes de risque. Donc on va rajouter la prime de risque sur l'inflation, par exemple. Donc si l'inflation augmente, ça veut dire que les taux d'intérêt à long terme vont augmenter. La prime de risque sur la croissance, alors c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de croissance. Donc là, la prime de risque est nulle, voire légèrement négative. C'est ce qui fait qu'on peut avoir une inversion de la courbe des taux. Et puis après, il y a la prime de risque sur la dette publique. C'est là qu'on a complètement oublié, parce que là aussi, pendant deux ans avec le coronavirus et ensuite, ça a continué. Comme c'était la BCE qui finançait tout ça, enfin les banques centrales qui finançaient cette dette publique, ben, là aussi, on a perdu le sens des réalités. Maintenant que ça s'est arrêté, hein, et que les banques centrales sont obligées de remonter le taux d'intérêt parce qu'il y a de l'inflation, d'ailleurs, c'est ça qui a fait l'inflation, n'oublions pas, hein, c'est cette planche à billets excessive, c'est à partir de là, on a ces taux longs qui vont, je pense, encore remonter. Donc moi, je pense que le taux de 10 ans français peut normalement monter au moins à 4%. Alors après, par contre, s'il y a une crise sociétale ou politique au sein d'un pays de la zone euro ou de la zone euro dans son ensemble, alors là, on peut monter au-delà. Donc, je pense que les taux d'intérêt à long terme vont encore augmenter. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et si les taux longs montent, évidemment, les marchés boursiers iront également à la baisse. Donc, on a quand même cette difficulté qui va perdurer encore une fois. Il faut garder le bon sens.
Merci à tous les deux d'avoir participé à Regards Croisés ce matin. Marc Toiti donc pour Assez les Filles et Mathieu Bailly pour Octo AM. Dans un instant, on fait un détour technique sur les marchés. Romain Daubry nous attend chez Bourse Direct. Vous n'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur le site ou sur vos plateformes préférées qui vous permettent de nous retrouver à votre convenance. Et puis à suivre, un petit détour sur le marché de la gestion de patrimoine. Hein, dans les coulisses du patrimoine, Taline Melkonian nous fera un éclairage sur le Pax, le mariage, le concubinage, tout comprendre sur ces histoires-là, sans oublier les réponses à toutes vos questions avec Sarah Salman. A tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, pour entamer cette dernière demi-heure de l'émission, on file sur les marchés. C'est Romain Daubry qui suit tout ça depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain.
Bonjour,
merci
Eric.
D'être avec nous pour nous poursuivre un peu les évolutions de ce marché. Bon, on avait imaginé dans la première demi-heure qu'on resterait peut-être au contact du niveau de clôture d'hier soir. Et puis finalement, c'est prudemment qu'on attend la Fed.
Oui, c'est ça, prudemment. De façon un peu logique, hein, on a rattrapé pas mal la semaine dernière. Il faut dire que les indices S&P 500 et Nasdaq ont donné des signaux très forts la semaine dernière en débordant des obliques baissières sous laquelle ils évoluaient depuis plus d'un an. Ils l'ont fait de façon assez forte, hein, avec des progressions importantes de plus de 2,5% pour le S&P, 4,71 pour le Nasdaq, et avec des volumes en hausse. Donc c'est un signal important de déborder ces niveaux, ces obliques baissières, ces lignes de tendance baissière. Maintenant, ce sont des mouvements qui demandent un petit peu de consolidation, et ça a été déjà le cas hier, et effectivement un peu de prudence en amont des rendez-vous qui nous attendent, et notamment de la Fed, effectivement. Il y a quand même toujours un marqueur de la prudence, effectivement une volatilité qui est assez tendue, hein, qui approche les 20 sur le VIX, alors que les indices ont nettement progressé. Ça montre que toujours que les opérateurs sont assez prudents, assez vigilants dans un contexte où les signaux sont quand même graphiquement plutôt intéressants. On le voit d'ailleurs sur certaines GAFAM, qui sont pas mal reprises et qui ont débordé des niveaux techniques et des lignes de tendance baissière. Elles aussi, je pense notamment à Apple ou Alphabet, qui offrent des configurations intéressantes. Alphabet est donc celle qui a probablement le plus de potentiel des deux. Mais même Microsoft aussi a bien réagi. Elle avait publié la semaine dernière, elle a baissé au moment de sa publication. Puis finalement, elle est au-dessus de ses cours. précédents. Donc, on voit de l'intérêt et des opérateurs qui ont l'air de vouloir acheter les replis. Donc, pour l'instant, effectivement, on consolide de façon extrêmement canalisée, extrêmement propre. On est passé sous la médiane à 7070 du trading range dans lequel se situe le futur CAC 40. C'est 7115 en haut. Ça va vraiment être le plafond de verre au-delà duquel on réactiverait vraiment la dynamique haussière. C'est normal qu'on prenne un peu d'élan après le parcours qu'on a connu depuis le début de l'année et qu'on aille retracer jusqu'à 6997, 7000. C'est assez légitime aussi. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, pas de risque de retracement plus marqué. Pour l'instant, on est effectivement toujours assez investi, mais on espère trouver des points d'entrée, comme pas mal d'opérateurs, je crois, un peu plus bas, sur quelques titres intéressants. On voit des parcours et des signes de retournement long terme, hein, sur des valeurs, une par exemple comme Elis, qui est en train de déborder des structures de retournement haussières sur le moyen long terme, qui sont vraiment importantes. Et puis du côté des value aussi, on cherche à trouver des points d'entrée sur des titres qui nous intéressent et qui seront plus probablement le cœur de nos investissements pour les semaines ou les mois qui viennent, même si encore une fois à court terme on peut bénéficier d'un effet de rattrapage sur des GAFAM qui ont pas mal sous-performé ces derniers temps.
Merci beaucoup Romain Daubry, donc depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, cet indice CAC 40 qui pour le moment est sous son niveau de clôture d'hier soir, on perd 0,6%, 7040 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Les coulisses du patrimoine qui accueillent ce matin Taline Melkonian. Bonjour Taline.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être avec nous pour l'ingénierie patrimoniale de Degroof Petercam. Et ce matin, vous nous proposez un éclairage sur ces quelques régimes, le concubinage, le Pax, le mariage. Qu'est-ce qui intrinsèquement différencie ces trois notions ?
Avant d'aborder les différences, il m'a semblé utile de faire un point sur les statistiques. Aujourd'hui en France, parmi les couples, il y a 73% des couples qui sont mariés, 7% des couples qui sont paxés et 20% des couples qui vivent en concubinage. Alors il est fort à parier que ces statistiques vont évoluer dans les 10-20 années à venir. Pourquoi ? Déjà parce que le Pax est quand même assez récent, il a une vingtaine d'années. Et après les mœurs ont énormément évolué puisque c'est vrai qu'encore dans les années 70-80, on ne pouvait pas nécessairement aller vivre ensemble sans s'être marié. Alors qu'est-ce qui différencie ces trois statuts de couple ? D'abord, le concubinage, d'un point de vue juridique fiscal, ne représente rien. C'est-à-dire que le concubin est un tiers. Donc, il n'a aucune reconnaissance envers le droit civil, ni envers la fiscalité. C'est tout simplement considéré
comme
deux
personnes, un tiers. Entre une étrangère.
Sauf que le fisc ne l'a pas oublié quand il s'agit de parler d'IFI,
ah oui.
Puisqu'il n'y a que pour l'IFI où finalement le concubin a l'obligation même de déclarer avec la personne avec laquelle il vit son patrimoine immobilier. A contrario, l'autre extrême, c'est le mariage. Le mariage confère lui des droits civils et surtout des avantages fiscaux importants au conjoint survivant. Et le Pax est quelque part entre les deux.
Alors, on imagine que lorsqu'on décide de vivre ensemble, on veut protéger l'autre. Justement, comment protéger au mieux l'élu de son cœur ?
Alors, déjà, force est de constater que le concubinage ne va pas répondre à cette attente. Donc, si réellement le souhait est de protéger à son décès l'élu de son cœur, le concubinage ne sera pas...
Donc ça, on oublie.
On oublie. Pourquoi ? Parce que c'est un tiers. Ça veut dire que si vous laissez quelque chose à votre décès à cette personne... il sera taxé à 60% et en plus vous êtes limité quelque part dans ce que vous pouvez lui laisser. Donc ça veut dire que concubinage, on oublie si c'est l'objectif. Après, on va hésiter entre le Pax et le mariage. Alors le mariage confère, d'un point de vue fiscal, les deux sont traités de la même façon. Que vous soyez un partenaire ou un conjoint survivant, fiscalement vous êtes exactement traités de la même façon, c'est-à-dire que les successions sont exonérées. Cependant, d'un point de vue civil, vous avez un traitement qui est totalement différent. Pourquoi ? Le conjoint, lui, a des droits légaux, c'est-à-dire que même si vous ne prévoyez rien, vous êtes tout simplement marié, vous n'avez pas fait de testament, vous n'êtes pas passé chez un notaire pour prévoir une donation au dernier vivant, quoi que ce soit, votre conjoint survivant, à votre décès, a une option à exercer. Donc, soit il prend un quart de votre patrimoine en pleine propriété, soit il prend la totalité en usufruit. Et si vous avez prévu plus de choses dans le testament, il peut avoir, ou avec une donation au dernier vivant, il peut avoir plus. Il faut faire très attention parce que le paxé, le partenaire lié par un pax, lui, je vous le disais, a les mêmes droits d'un point de vue fiscal, mais d'un point de vue civil, n'a pas de droit. Donc,
ah oui.
Donc, si vous avez omis d'aller faire un testament, si vous avez oublié de le mentionner quelque part, il n'aura pas de droit sur votre succession. Donc, ça lui fera une belle jambe d'avoir, d'être fiscalement traité quelque part comme un conjoint survivant, mais d'un point de vue civil, il n'aura rien.
D'accord.
Donc, si vous êtes dans un PACS, il faut absolument veiller à prévoir par écrit ce que vous souhaitez lui léguer. Après, il y a d'autres différences aussi qui sont importantes. Par exemple, un conjoint survivant, lui, a de facto droit au logement. Au logement familial, la résidence principale, il peut continuer à l'occuper. Là, pareil, vous pouvez le prévoir pour un partenaire lié par un PACS. Cependant, il y a quand même une différence où vous ne pourrez rien faire. Par exemple, sur la retraite de réversion, qui serait versée par la Sécurité sociale ou l'AGIRC, eh bien là, uniquement les conjoints survivants y ont droit. Les PACSés, les concubins n'y ont pas droit. Et il y a également, il y a également ce type de différences qui existent sur d'autres points.
Donc il y a des différences fondamentales, mais on peut arranger le PACS en s'en occupant, en clair, c'est ce qu'il faut.
Oui. Donc le PACS peut se rapprocher. Enfin, on peut totalement protéger un partenaire.
Mais il faut y penser, alors que dans
absolument.
Le mariage,
absolument, c'est ça la grande différence. Bon. C'est-à-dire que le mariage, c'est automatique, et dans le cadre d'un PACS, il faut absolument prendre des dispositions préalables.
Bon, parfois dans toutes ces unions, on n'est pas tout seul. Il y a aussi la belle famille, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec le proverbe qui dit on se marie avec quelqu'un, pas avec sa belle famille?
Alors, pas tout à fait, pour deux raisons. Déjà, pour des raisons personnelles, c'est vrai qu'on se marie avec une famille. Mais également, d'un point de vue obligation, on peut se retrouver dans une situation où, en tant que conjoint, en tant que marié, conjoint, époux, on est obligé de subvenir aux besoins des beaux-parents s'ils en ont besoin.
Ah oui.
Oui, donc on a des obligations qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer.
Bon, on a déjà fait pas mal le tour de ces trois régimes. On rappelle, hein, concubinage, PACS et mariage. Il y a d'autres différences méconnues
Oui, il y a beaucoup d'autres différences. Il y a encore des petites différences au niveau, par exemple, des congés. C'est vrai que, par exemple, lorsque vous êtes marié et vous travaillez ensemble dans une même entreprise, votre employeur est obligé de vous donner des congés en même temps. Mais uniquement si vous êtes marié. Si vous êtes paxé, votre employeur peut ne pas vous accorder vos congés en même temps. Et également, lorsque un des conjoints perd ses parents, le conjoint marié a le droit d'avoir des jours de congé pour faire le deuil de ses beaux-parents, ce qui n'est pas le cas des paxés ou des concubins.
Donc parfois, c'est un petit peu secondaire, mais ça fonctionne aussi. Merci beaucoup d'être venu nous voir donc dans les coulisses du patrimoine. Taline Melkonian pour De Groff Petercam. À très bientôt.
À bientôt, Cédric.
Le marché parisien, lui, est à 7040 points. Il perd 0,6%. Bon, c'est installé grosso modo autour de ces 7040 points, en attendant donc la réunion de la Réserve fédérale.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour répondre à toutes vos questions, vous en avez l'habitude chaque jour, nos experts sont en plateau aujourd'hui. Sarah Salman, bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. On rappelle que pour nous écrire, notre mail vous attend, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. On commence avec cette question d'Eric. Il n'a pas payé la pension alimentaire de sa fille depuis 9 mois. Et du coup, il se demande ce qu'il risque.
Ben, c'est bien de se le demander. Alors déjà, on va rappeler...
Déjà, c'est pas bien de ne pas l'avoir payé.
Ben, on va un peu nuancer.
Ah bon.
Enfin, non, c'est pas bien d'un point de vue moral, mais on va nuancer sur les risques. Alors, pension alimentaire, c'est une obligation alimentaire qui a pour vocation de couvrir les dépenses essentielles. Donc, ça peut être des parents envers les enfants, des enfants envers les parents. Votre précédente interlocutrice expliquait aussi le rôle des beaux-parents. Donc on peut aussi rebondir là-dessus. Donc pension alimentaire, ça dépend si c'était versé de façon amiable. Par exemple, admettons, c'est Eric, sans jugement, il donne à la mère de son fils, ou non, de sa fille, pardon.
Sa fille, oui.
On va rester dans les clous. Il donne 300 euros, admettons, comme ça, de la main à la main, ou par virement, sans jugement de divorce, sans convention de divorce, sans jugement tout court. Et bien dans ce cas-là...
Gentiment, entre guillemets.
Enfin, gentiment, quand on fait un enfant, c'est bien de s'en occuper.
Oui.
Mais gentiment, amiablement, et tout se passe bien. D'un coup, il arrête. Eh bien, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Rien, en réalité. Elle peut tout simplement saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer réellement, cette fois-ci, par jugement, la pension alimentaire ainsi que les modalités. Mais 9 mois, j'ose espérer qu'elle l'ait déjà fait, parce que les délais d'audience, par exemple, à Paris, sont assez longs. Mais voilà, finalement, il ne risque rien. Autre solution, eh bien, il y a un jugement, ou une convention parentale, ou une convention de divorce, en tout cas une décision de justice. Il y a deux risques. Le premier, la procédure pour impayé, évidemment. Alors, admettons, c'est 300 euros sur 9 mois. 3 fois 9, 27, donc 2700 euros. Plus on attend, plus on va être englué dans l'impayé, plus ça va être dur de remonter. Donc ça, c'est voilà, la procédure pour appuyer.
Déjà, il ne faut pas tarder. Quoi, dès que...
Mais 9 mois, c'est beaucoup quand même, Eric. Enfin, vous voyez, c'est quand même c'est énorme, 9 mois. Deuxième risque, et ça, je pense que les gens y pensent beaucoup moins, c'est le risque pénal. On peut être poursuivi par le tribunal correctionnel pour délit d'abandon de famille. Et c'est un délit qui est réprimé par une peine pouvant aller de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Donc pour cela, il faut plusieurs conditions, parmi lesquelles une décision de justice, ne pas avoir payé pendant au moins 2 mois. Alors après, on peut essayer de dire, voilà, j'avais 24 force majeure, je ne pouvais pas, mais pendant 9 mois... C'est un peu... Bon, et l'idée, c'est de communiquer avec l'autre parent. Et si jamais décision de justice il y a, il faut saisir le juge aux affaires familiales, expliquer qu'il y avait un élément nouveau. Parce que si on dit, par exemple, j'ai pas payé la pension alimentaire, ça m'est arrivé une fois. J'ai pas payé parce que je voulais m'acheter... C'était pas... Je vais prendre un autre exemple pour pas que la personne puisse s'identifier, mais une nouvelle voiture. Enfin, je veux dire, la jurisprudence a estimé que l'obligation alimentaire passait avant les autres dépenses, surtout une nouvelle voiture. Donc si c'est « j'ai pas envie de payer parce que j'ai d'autres dépenses que j'estime plus importantes », ça ne passe pas et c'est inaudible devant un juge aux affaires familiales. Deuxième option.
Par contre, si par exemple on a
eu... On a un nouvel enfant par exemple, un enfant oui. plus à charge. Mais dans ce cas-là, ne pas payer du tout et payer
oui,
moins,
si
c'est
on
déjà
a un
pas
problème
pareil.
Financier,
bah, si on est au chômage, voilà. si on a quelque chose. Mais l'idée, c'est d'être proactif et de ne pas attendre que les choses s'enveniment. Parce que plus on attend, plus les choses s'aggravent. Alors que si on va devant le juge aux affaires familiales, on explique sur justificatif, voilà, je souhaite moins payer et quand ma situation ira mieux, je paierai un peu plus, on peut discuter. Mais là, 9 mois, je vois pas comment ça peut bien se passer. Donc, moi, je pense que si jamais c'était à l'amiable, en tout cas, la mère va, ou le père d'ailleurs, va saisir le juge aux affaires familiales pour que ce soit fixé. Je rappelle aussi que la pension alimentaire, on ne peut pas la stopper volontairement au prétexte que l'enfant est majeur. Parce que là, finalement, c'est pas précisé. On pourrait, peut-être qu'il s'est dit, ma fille a un an, un job payé, je sais pas, à mi-temps, 500 euros. Non, on ne stoppe pas la pension alimentaire tant que l'enfant n'est pas autonome. Être autonome, c'est une on considère que c'est une activité rémunérée au minimum au SMIC. Donc là, de toute façon, pas payé depuis 9 mois, ce n'est pas bien et vous risquez quelque chose. Donc je vous conseille simplement d'agir et de ne pas laisser, entre guillemets, pourrir la situation.
Tania souhaite procéder à une séparation de corps. Peut-on le faire de façon amiable ? D'abord, on rappelle ce que c'est ?
Alors, la séparation de corps, je vais vraiment la distinguer de la séparation de fait. Parce que j'ai eu la question en début de semaine. Une personne, une dame vient me voir, elle me dit, voilà, je me suis séparée de corps. Alors, je dis, bah, alors, est-ce que je pourrais avoir la décision ? Ah ben non, on l'a fait comme ça. C'est-à-dire, juste, on a habité séparément. Donc, c'est pas une séparation de corps, c'est une séparation de fait. Je rappelle, quand on est unis par les liens du mariage, on a une obligation de vivre sous le même toit. Bon, on se sépare de fait, c'est pas une séparation de corps. La séparation de corps, c'est qu'on est autorisé à résider séparément, mais les autres obligations inhérentes au mariage perdurent. Par exemple, le devoir de fidélité perdure quand bien même on habite séparément. Alors, on pourrait presque se demander, bah, à quoi ça sert ?
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est pour des raisons religieuses, par rapport à la société, parce que ce serait mal vu. Il y a des personnes et c'est leur droit le plus strict. Et il faut rappeler que d'un point de vue du régime matrimonial, ça entraîne un changement. Par exemple, si on n'a pas de contrat de mariage, ça entraîne une séparation de biens. Très important de le savoir. Donc après, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Ça dépend de ce qu'on veut. On pourra ensuite le convertir en divorce si on le souhaite. Donc là, pour Tania, la question c'est, peut-on le faire de façon amiable ? La réponse est oui, mais il faut être d'accord sur le principe et sur... Déjà, est-ce que vous avez bien compris ce qu'est une séparation de corps ? Donc je vous invite à vous rapprocher chacun, vous et votre époux de votre avocat, et de voir si c'est pertinent. Donc le principe et les conséquences. Si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Juge aux affaires familiales. Donc après, est-ce qu'il vaut mieux ça ou un divorce ? Ça, c'est tout plein de questions qu'il faut voir en amont. Et c'est possible, finalement, la procédure à l'amiable est calquée sur la procédure du divorce par consentement mutuel, contresigné par acte d'avocat. Donc c'est tout à fait possible, mais il faut vraiment analyser est-ce que c'est pertinent ou pas.
Peut revenir en arrière ?
Oui, après, on peut toujours, mais si vous voulez, quand on fait une séparation de corps, normalement, enfin, ce que je vois le plus, c'est plutôt séparation de corps, puis divorce, hein. Ou alors séparation de corps qui reste. Mais dans la pratique, ce que font les gens, souvent, c'est une séparation de fait. Et il y a même des gens qui peuvent rester 20 ans en séparation de fait sans rien faire. Je le rappelle encore, normalement, on ne doit pas quitter le domicile conjugal. Hein. Mais bon, après...
Bon. Et ça veut dire derrière qu'il y a tout un... un tas de choses qui seront différemment. Par exemple, je ne sais pas, j'imagine la déclaration d'impôt.
Alors, très 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 bonne question, la déclaration d'impôt.
On a fait chacun la sienne après ?
Chacun la sienne, ça, c'est très important de le savoir. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il faut déclarer cette situation nouvelle aux impôts.
Ah oui, il y a chute, mais ce n'est pas grave.
Elle ne tombera pas plus bas.
Non. Bon, donc ça veut dire que si on a, voilà, donc si on décide de se séparer de corps, après il y a tout un,
il y a tout un processus. Voilà, ce sera chacun son avocat. Mais vraiment, voyez de façon amiable et voyez si c'est pertinent, parce que j'ai quand même plusieurs personnes qui m'ont dit, on va faire une séparation de corps, puis finalement, bon, on va peut-être divorcer. Ouais. Donc c'est pas du tout la même chose. Hein. Ah, on peut pas se remarier, bien sûr, hein, avec la séparation de corps. Je le précise.
Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que
on reste dans les liens du mariage. Donc, si on veut se remarier, se paxer, ce n'est pas possible.
Mais en revanche, on peut se redéséparer.
Oui, on peut. Après, c'est pas normalement, c'est bon, c'est pas le but. Mais bon, d'accord. Pourquoi pas.
Bon. Question. On passe à la question que vous envoie Charles. On rappelle que vous pouvez nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr chaque jour. Nos experts répondent à vos questions. Question de Charles. Il est confronté à une action en recherche de paternité. Or, Charles nie être le père. Est-ce que l'enfant peut quand même devenir son héritier?
C'est une question intéressante parce que fréquente. Alors, j'en déduis que Charles, vous n'étiez pas marié, parce que quand un couple est marié, le mari est présumé être le père de l'enfant. C'est le code civil qui le dit. Alors, il y a beaucoup de pères qui disent « on m'a fait un enfant dans le dos ». C'est l'expression qui est employée. Donc, la question recherche de paternité, la reconnaissance d'un enfant peut être spontanée. Là, c'est pas ce qu'il veut. On va quand même parler de ce cas, une reconnaissance spontanée. Vous allez à la mairie, vous reconnaissez l'enfant, ce qui suppose qu'il n'ait pas été reconnu par un précédent père. Auquel cas, il faudra faire une contestation de paternité et ensuite établir la vôtre. C'est pas ce que vous voulez, mais ça peut parler à certains téléspectateurs. Donc ça, c'est important. Elle peut se faire à n'importe quel moment. Plus on attend, plus le lien avec l'enfant est distendu. Ça tombe sous le sens. Mm-hmm. Ensuite, la recherche de paternité. Alors, c'est une procédure qui, pour l'enfant, pour l'intérêt de l'enfant, ça peut être compliqué. Généralement, la mère va arriver, va dire, voilà les faisceaux d'indices que j'ai fréquenté aucun autre homme, voilà les SMS, tous les échanges. Mais la preuve maîtresse, c'est le test génétique.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est le test de paternité. Donc, si le test de paternité, la réponse est oui, eh bien, ça veut dire que vous êtes le père, Charles, et vous allez devoir assumer les conséquences. Donc, la pension alimentaire...
Ça s'impose dans ces cas-là.
Ah bah, le lien de filiation est établi. Donc, il va falloir... La pension alimentaire, s'il y a, à moins qu'il soit impécunieux, pardon, le nom de famille et la fâcheuse question, l'héritage. Oui, cet enfant va hériter au même titre que les autres. Alors après, j'ai presque envie de vous dire, fallait un petit peu réfléchir avant.
Mais c'est ça.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en disant « oui, mais vraiment, je ne savais pas ». Bon, on a quand même, je pense, au XXIe siècle, les moyens de savoir. Et il va devenir donc héritier. Alors ensuite, on pourra avantager les autres enfants par le biais de la quotité disponible, avec des dispositions testamentaires. Mais cet enfant sera héritier. En revanche, pas d'obligation de le côtoyer. Les droits de visite, c'est un droit, pas un devoir. Bien sûr, on le rappelle, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas... au mieux, mais on peut tout à fait... voilà, c'est une action qui fonctionne. Je précise aussi, parce que ça me vient à l'esprit, la reconnaissance de paternité, donc la reconnaissance d'un enfant, peut aussi se faire devant notaire pour des questions de confidentialité. Ça a déjà été fait par certaines célébrités. Bah, en mairie, vous allez devant l'officier d'état civil, devant le notaire, c'est quand même plus discret.
Juste, vous avez évoqué le fameux test de paternité.
Ah oui, c'est fondamental.
Ouais, mais s'il veut... Enfin, je veux dire, s'il veut pas... Il peut dire, je veux pas faire de test.
Bah non, on l'attache et on le fait. Non, je plaisante. S'il veut pas, eh bien, on ne peut pas le forcer. Vous avez raison de le dire.
Et donc,
Eh bien, on ne peut pas le forcer. On pourrait dire, eh bien, finalement, pas de test, pas le père.
Tranquille, quoi.
Eh bien non, parce que la jurisprudence a déjà estimé que c'était un aveu tacite de paternité.
Ah.
Alors là, il faut réfléchir à deux fois. Et il y a même des affaires célèbres, je ne vais pas donner le nom, mais en tout cas, ça a déjà été estimé comme tel. Donc le conseil personnel, mais qui n'engage que moi, si on est sûr d'être l'enfant, puis il vaut peut-être mieux faire le test, on pourra avoir la bonne surprise de ne pas être le père, finalement.
Ah.
Non mais, c'est une manière de voir les choses. Si on est vraiment... Parce qu'en fait, si vous êtes sûr de ne pas être le père, en général, vous le faites.
Oui.
Mais si au fond de vous, vous savez que vous l'êtes... Autant le faire aussi, parce que si ça se trouve, éventuellement,
peut-être vous avez du bol.
Ouais, je n'osais pas le dire comme ça, mais c'est ça, parce que bon, ça...
On
ne
va pas tourner autour du pot. Hein.
Oui, c'est ça, mais ça a beaucoup de conséquences quand vous avez... Parce que
mais si on refuse de s'y soumettre, c'est tacite, quoi.
Pas forcément, mais ça peut être interprété comme ça, et souvent c'est interprété comme ça. Parce que sinon, pourquoi refuser un test si vous êtes sûr de ne pas être le père?
Bien sûr.
Et puis, bon, après, parce que la ressemblance physique, ce n'est pas vraiment un argument.
Bon. Catherine refuse de divorcer après 30 ans de mariage et elle se demande comment empêcher le divorce. Elle nous précise, Catherine, que son mari, lui, veut se remarier parce qu'il a rencontré quelqu'un. Et ça, elle le refuse.
J'adore cette question parce que c'est une question où moi, je suis souvent, plus souvent côté femme d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et certaines femmes me disent, voilà, mon mari veut divorcer et ça ne se passera pas comme ça.
Ouais.
Non, ça ne se passera pas comme ça. Bon, d'accord. Alors, d'emblée, on peut dire que ça se passera comme ça. Si monsieur a décidé de divorcer, il divorcera. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester dans les liens du mariage. Et heureusement, c'est quand même la liberté individuelle de faire ce que l'on veut. Mais ce qu'on peut faire...
Enfin, quand vous dites monsieur, ça peut être madame. Enfin, je veux dire, si l'un des deux...
mari.
Oui, oui, non, mais je veux dire, si l'un des deux conjoints décide...
Chacun peut reprendre sa liberté. Voilà. Et heureusement. Alors après, il existe quatre formes de divorce. Divorce par consentement mutuel, je pense que là, bon...
A priori, là, on n'est pas dans ce cas-là.
On n'est pas dans cette dynamique, mais non. On peut évoluer. Divorce accepté, c'est on est d'accord de divorcer, pas sur les conséquences. Bon, on n'est toujours pas dans cette dynamique. Divorce pour faute, j'en sais rien. Divorce par altération définitive du lien conjugal, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la séparation de fait. Au bout d'un an, on peut demander cette forme de divorce. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement ? C'est pas le meilleur conseil, j'espère qu'elle le fera pas, c'est repousser la procédure. Si vous faites des renvois, que vous interjetez appel, au final, vous allez juste envenimer les choses, repousser. Mais vous n'empêcherez pas le divorce. Alors, si c'est pour repousser de 3 ans et empêcher le remariage, bon, bah, vous allez repousser de 3 ans. Mais bon, au final, vous aurez juste donc, envenimé la relation. Dans tous les cas, au bout d'un moment, son divorce.
Qu'on soit homme ou femme, on ne peut pas empêcher un divorce.
On ne peut pas empêcher un divorce. On peut le retarder, mais est-ce que c'est souhaitable ? Parce que là, c'est vrai, ça fait 30 ans. Bon, je comprends que ça fasse beaucoup. Mais peu importe la durée. Ah oui, la durée, parce que ça, c'est beaucoup quelque chose qu'on met en avant. Il y a des gens qui me disent, mais ça fait 40 ans qu'on est mariés, il ne va pas divorcer maintenant ? Bah, si, pourquoi pas ? Oui. Enfin, j'entends que ce soit plus difficile après 40 ans, 30 ans qu'après un an, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de divorces qui ont duré 6 mois. Je sais pas, peut-être que ça marche moins bien, je sais pas. Mais j'entends, mais on peut pas forcer quelqu'un. Et bon, je pense que ça serait peut-être opportun de faire une médiation. Et, autre hypothèse, parfois, il y a le mon mari a rencontré quelqu'un et finalement, il revient quand même. Donc ne perdez pas espoir, Catherine.
Ah oui. Parce que donc, du coup, ça vaut peut-être le coup de laisser traîner.
Oui, alors quand je dis laisser traîner, s'il a envoyé une assignation, vous voyez, c'est plus dur. Mais déjà, prendre chacun rendez-vous avec un avocat, essayer et dire déjà, je veux pas divorcer, tu resteras là. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des dynamiques à adopter. Après, bon, peut-être que ça marchera, je ne sais pas.
Allez, on passe à la question de Clarisse. Elle a le nom de son père et elle souhaite prendre celui de sa mère. Et elle a entendu parler d'une réforme. Est-ce le cas ?
Oui, c'est le cas. La réforme qui est entrée en vigueur en juillet 2022. Désormais, il est possible de se rendre en mairie pour prendre le nom de... Donc là, c'est le nom de son père. Elle voudrait celui de sa mère. Elle peut le faire. Avant, c'était une requête devant le garde des Sceaux assez compliquée, assez longue, qui est restée... Enfin, c'est toujours le cas pour la francisation du nom, pour les noms injurieux. Mais pour maintenant, pour changer de nom, c'est-à-dire on peut changer, on peut prendre le nom du père, le nom de la mère, inverser les deux. En fait, l'enfant... Là, je pense qu'elle est majeure si elle nous pose la question.
Elle a 26 ans.
Donc, elle est majeure. En fait, la personne se retrouve avec les mêmes choix que ses parents avaient à sa naissance. Donc, oui, c'est possible. Il faut se rendre soit dans la mairie du lieu de son domicile de naissance. Il y a un délai de réflexion, mais un point fondamental, il y a la possibilité de le faire qu'une seule fois dans sa vie, dans ces conditions. Donc, le mieux, c'est quand même de réfléchir. Un petit
et
peu
les parents
avant.
N'ont pas leur mot à dire.
Bah, elle a 26 ans quand même.
Non, mais...
Donc, j'espère. Après, en fait, cette procédure, là où elle a été utile, c'est aussi pour les mineurs, parce que par exemple, quand les parents séparaient la mère avec eux, enfin l'enfant avec eux, le nom du père, et la mère devait constamment justifier du lien de filiation avec le livret de famille. Donc pour ça aussi, c'est facilité pour les enfants mineurs qui ont que le nom du père. Parce que je le rappelle, la majorité des enfants en France aujourd'hui ont leur nom du père. On est en moyenne sur bien plus de 5 sur 10. Donc c'est important de le rappeler. Donc elle pourra tout à fait faire cette procédure. C'est assez rapide, il faut apporter les éléments justificatifs. Il n'y a pas de motif légitime à apporter. À la différence, par exemple, si vous voulez changer de nom parce que votre nom, il y a un exemple qui me vient comme ça, bon, c'était en Belgique, mais pour vous donner un ordre d'idée, la petite fille s'appelait Lara et son nom de famille c'était Clette. Donc, vous voyez, là, ça peut poser une difficulté. Enfin, vous avez compris.
Lara Clette, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris.
Oui, voilà. Bah, les parents ont dit qu'ils n'avaient pas compris dans cette jurisprudence le jeu de mots et qu'ils l'ont compris à la maternité. Donc, pour tout ce qui est nom injurieux, association compliquée, là, c'est l'autre procédure qui est en vigueur. Sinon, c'est
à la mairie. Et si on porte un nom compliqué, genre Dutroux, puisque vous parliez de
la... Là, c'est la procédure devant le garde des Sceaux assez longue. Il faut justifier d'un motif légitime et ce n'est pas juste aller à la mairie. Là, on a fait ça pour simplifier la procédure.
Mais
pour
donc, c'est un one shot qu'on a le droit.
Dans ces conditions, c'est one shot. Il faut bien réfléchir. L'idée, c'est de ne pas revenir un mois après, quoi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu répondre à toutes ces questions, Sarah Salman.
Merci à vous.
Qui nous accompagne très régulièrement. N'hésitez pas à nous écrire, BFM Patrimoine @bfmbusiness.fr. Et chaque jour, nos experts sont sur le pont pour vous répondre. Dans une poignée de secondes, c'est 90 minutes business. Et on retrouve donc Sarah Sandra Gandoin.
Il va y arriver. Ça ressemble.
C'est obligatoire.
Bonjour Cédric.
Quand on sort de Sarah Salman, je me plante un coup sur deux, non?
Bah oui.
Allez Sandra, qu'est-ce que vous nous proposez à midi?
On va parler de la résistance de l'économie. C'est Bruno Le Maire qui dit que notre économie est résiliente. On va parler, analyser les indicateurs qui sont tombés ce matin avec Jean-Marc Daniel. On va parler de la solution du rachat de trimestre en cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mode d'emploi avec Caroline Morisseau à suivre. Et puis, ces e-commerçants qui choisissent de faire payer leurs clients avec des crypto-monnaies. Jean-Marc Daniel déteste ça. On va en parler en plateau. C'est Lizzie, le patron de cette entreprise qui permet cela aux e-commerçants, qui sera notre invité. On parlera aussi de la santé du e-commerce dans le débat. Voilà, c'est un peu dans le désordre, mais enfin, plein de thèmes très intéressants à suivre encore dans 90 minutes business, Cédric.
Ça fourmille d'idées avec Sandra Gandoin. Dans quelques minutes, donc, le marché, lui, perd 0,7%, 7031 points. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.